Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Thomas Rozek. En tant que journaliste, mais aussi tout simplement en tant que simple citoyen, père de famille, j'ai énormément de mal à aborder sereinement la question du climat, sans être rattrapé pour le moment en tout cas par l'éco-anxiété, cette dépression de plus en plus fréquente chez ceux qui prennent soudainement la mesure de l'urgence environnementale. Cette réalité me pèse comme elle le fait pour la plupart des gens autour de moi, qui eux aussi souvent se trimballent un gros sentiment de frustration. Car malgré les cris d'alarme des associations, des scientifiques, malgré les manifs, les sommets, les traités, rien n'a l'air d'avancer. D'où l'émergence, absolument pas étonnante, de mouvements plus radicaux, qui pour l'instant prônent la désobéissance civile. Mais jusqu'à quand ? Est-ce que nous ne serions pas à deux doigts de l'émergence de groupes plus durs qui, face à l'inaction des États, choisiront bientôt la violence, voire l'éco-terrorisme ? Comment les militants d'aujourd'hui voient les choses évoluer ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Cette réflexion, elle est notamment née de l'arrivée en France d'un mouvement qui vient d'Angleterre, Extinction Rebellion, XR comme l'appellent ses membres, qui prônent donc la désobéissance civile non violente et qui a récemment connu un fort intérêt médiatique après l'une de ses actions, le blocage d'un pont à Paris à la fin du mois de juin. C'est d'ailleurs pas tant l'action en elle-même qui a marqué, mais surtout la réaction policière, dont les images où on voit les militants assis par terre se faire balancer du gaz lacrymo en pleine face à bout portant, ont choqué pas mal de monde. Une enquête préliminaire sur ces méthodes musclées a d'ailleurs été ouverte par le parquet de Paris. Au-delà de ces violence, nous on avait surtout envie de causer avec ces militants de leur mode d'action, du risque de voir les mouvements se durcir, des raisons aussi qui poussent à s'engager. C'est d'ailleurs par ce point précis qu'a commencé la discussion que j'ai eue avec deux membres d'Extinction Rebellion en Ile-de-France, Flora et Jay.
Parce que justement, Extinction Rebellion n'est pas un mouvement pour le climat. Ouais. Moi, je l'ai vraiment senti comme étant un mouvement social, environnemental. Ça reste un mouvement qui effectivement a surtout des revendications environnementales et qui est assez biais dans les activistes qui sont surtout des gens blancs, surtout des gens CSP+, etc. Mais il n'y a pas que ça. Disons qu'il y a pas, c'est pas uniquement pour le climat, c'est, moi je le vois vraiment comme un mouvement social qui essaye d'intégrer toutes les problématiques qui sont touchées en fait par un système qui s'est un peu emballé, j'aurais tendance à le penser, qui s'est un peu emballé et qui est en fait bâti sur des histoires toujours de domination et d'exploitation au lieu de penser quelque chose d'un peu plus harmonieux, de plus vivre en collectivité, de pas trop exploiter, de permettre la régénération, etc. Ouais. Et en fait, c'est le fait qu'il y ait une réflexion qu'on appelle systémique, donc pas uniquement sur l'environnement, pas uniquement sur le climat, mais aussi il y a des petits cercles d'affinités qui sont créés au sein d'Extinction Rebellion. Il y a par exemple un cercle écoféministe, donc sur des réflexions féministes. Et en fait, on en revient toujours aux mêmes causes. C'est toujours domination-exploitation. Pareil, un petit cercle décolonialiste, des réflexions sur comment est-ce qu'on peut inclure aussi les banlieues, les classes populaires dans toute cette réflexion-là, parce que c'est absolument important. On n'a pas du tout la même approche des problématiques, mais on sera tous touchés par ça. Et ça, je trouve que c'est primordial, cette analyse systémique du problème qu'il y a aujourd'hui.
Ce qui se passe au niveau de la destruction des écosystèmes par rapport au dérèglement climatique, pour moi, ce sont des conséquences du système dans lequel on est. Et ce que j'ai aimé chez Extinction Rebellion, c'est que on a une approche vraiment systémique, on parle de radicalité. Mmh. Derrière radicalité, il y a bien l'enjeu de s'attaquer au problème à la racine. Mmh. Et pour moi, c'était très important d'aller adresser les causes plutôt que les conséquences. Mmh. Pour moi, si on règle juste le problème climatique, c'est-à-dire que si on est, imaginons qu'on arrête tout de suite les émissions de gaz à effet de serre, on va reproduire le même problème à moyen ou à long terme, parce que c'est notre système qui fonctionne pas. Donc c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans Extinction Rebellion. Le deuxième élément qui m'a poussé vers Extinction Rebellion, c'est le côté international. Je ne pense pas que la France toute seule, imaginons qu'on arrive à créer un mouvement qui arriverait à infléchir la politique française. Si on se retrouve isolé sur le plan international, ça ne fonctionnera pas. Donc moi, je crois à un aspect international. Il faut que ça se passe dans le monde entier, le plus possible. Donc pour moi, ça m'a poussé vraiment à y aller.
Mais est-ce que justement, parce que derrière tout ça, moi, j'ai une interrogation qui me trotte dans la tête depuis un moment déjà, et auquel l'arrivée, on va dire, et l'émergence d'Extinction Rebellion répond en partie. J'ai la sensation, moi, que justement, comme tu le disais, Jake, je m'inclus dedans, beaucoup alerté, beaucoup milité, beaucoup manifesté, fait beaucoup de choses pour faire état de ce qui est de fait une urgence concernant le climat, et que l'inaction des pouvoirs publics ne fera que radicaliser au fur et à mesure les mouvements qui en appellent à une prise de conscience rapide. Est-ce que finalement... Moi, j'ai la sensation qu'Extinction Rebellion, ce sera un peu un des derniers mouvements non violents avant qu'on verse dans quelque chose d'encore plus radical. Est-ce que c'est une inquiétude ou en tout cas un sentiment que vous partagez, ou est-ce que pour l'instant ça vous paraît encore de l'ordre de la science-fiction ?
Je suis plutôt d'accord avec toi. Je suis incapable de dire si Extinction Rebellion est le dernier ou un des derniers mouvements, mais je partage l'urgence. Enfin, au plus on attend, au plus ça va être difficile d'agir, au plus on va avoir besoin de mesures radicales pour le faire. Mmh. Et en effet, je partage, je ne suis pas le seul, on se pose la question à un moment donné, est-ce que les mouvements ne vont pas devoir se radicaliser encore plus ? Mmh. Il y en a déjà. Je pense notamment à Deep Green Resistance, qui eux vont un peu plus loin dans la désobéissance civile, c'est-à-dire qu'eux vont être OK sur des actions de sabotage, par exemple de sites industriels. Nous, aujourd'hui, on n'est pas dans ce registre d'action. Mais en effet... Devant l'inaction des gouvernements, on se pose la question, combien de temps on peut tenir la posture non violente ? Pour nous, elle est très importante. Je vais peut-être dire deux mots sur pourquoi c'est très important la non-violence. Pour moi, pour deux raisons. On veut créer un mouvement de masse. On veut que le maximum de gens nous rejoignent. Et pour moi, la non-violence, c'est le meilleur moyen d'être rejoint par le plus grand nombre de personnes. On ne peut pas faire appel à des centaines de milliers de personnes, voire à des millions de personnes, si on prône la violence. Donc pour moi, c'est une manière de rassembler. Il y a aussi quelque chose de moral. On peut pas... Pour moi, la manière dont on va agir... Et ça va influer sur le monde qu'on va créer. C'est-à-dire que si on arrive à nos objectifs, on va parvenir à créer un nouveau monde, en tout cas un nouveau paradigme. Et si on prône la violence, j'ai peur que le monde vers lequel on aboutit soit violent. Et l'histoire l'a montré. Les révolutions qui ont été dans la violence ont créé souvent des alternatives violentes. Et c'est pas ce sur quoi on veut aller. Et après, il y a un côté très pragmatique. Alors, on est dans l'ordre des sciences sociales, mais il y a beaucoup d'études qui nous montrent qu'un mouvement non violent a beaucoup plus de chances. Donc, si on est juste pragmatique, un mouvement non violent a beaucoup plus de chances de réussir qu'un mouvement violent. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Parce que si on s'attaque au système de manière violente, on sera perdant.
Ma réflexion personnelle sur la violence, non-violence, elle est toujours en pleine construction, parce que c'est aussi quelque chose qui est terriblement... subjectif. C'est le premier exercice que les formateurs aux actions de désobéissance civile font, c'est le positionnement dans l'espace par rapport à des exemples d'actions qu'on trouverait violents, pas violents, et est-ce qu'on accepterait de les réaliser ou pas. Et en fait, des gens... certains considèrent par exemple que le fauchage d'un champ OGM, de maïs OGM par exemple, c'est une action violente. D'autres non. Et en fonction des sensibilités de chacun, en disant que oui, mais imaginons c'est un agriculteur qui fait pas partie d'une grosse corporation et qui va en pâtir de ça, c'est super violent pour lui, etc. Donc Est-ce que dans violence, c'est uniquement des violences physiques face à des personnes, des individus? Est-ce que le sabotage c'est violent, etc. C'est effectivement débattu, c'est compliqué et complexe. Pour l'instant, effectivement, la posture d'Extinction Rébellion, c'est non-violence au maximum. Mm. Je sais pas dans quelle mesure d'autres mouvements qui sont un peu plus radicaux sont en train d'émerger, parce que il y a quand même une grosse répression de l'État face à des mouvements de ce genre-là, parce que ils seront directement targués comme terroristes. Mm. Et ça c'est extrêmement compliqué à gérer. C'est des infrastructures de communication, d'information qui sont super complexes, et je sais pas dans quelle mesure aujourd'hui c'est faisable, quoi. Mm. On prend par exemple l'affaire Tarnac, je connais pas beaucoup. Oui. mais voilà, suspicion de sabotage d'une ligne TGV, et puis voilà. Enfin, oui. C'est l'arrêt total de la cellule, quoi. Mmh. Personnellement, je m'aventurerais du coup pas dans ce terrain-là. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est effectivement pas viable.
C'est pas viable, effectivement, mais il y a toujours le risque de le voir malgré tout débarquer, je pense, notamment, pour rester dans l'idée de ce qu'on se disait là, du fait de la répression ouais. policière. Parce que je pense que beaucoup de gens ont été saisis physiquement et intellectuellement de voir les images de ce qui s'est passé sur le pont tout récemment à Paris, et de la démesure, on va dire, des moyens de police et de la réaction policière face à une action qui était non violente et qui s'est retrouvée traitée comme une action très violente, pour le coup, en tout cas traitée de manière très violente. Est-ce que, quelque part, ça fait partie de la stratégie d'une forme de pousser un peu les militants à la faute pour décrédibiliser leur travail, votre travail? Comment est-ce que vous le percevez, vous, tout simplement, cette stratégie, cette réponse à laquelle vous êtes confrontés?
C'est vrai que c'est un peu compliqué. On a donc le mouvement Extinction Rébellion en France est très très neuf. L'action sur le pont, c'était notre première action de blocage d'un axe de circulation à Paris. Et donc, effectivement, avec ça viennent plein de questionnements sur comment est-ce qu'on va faire pour les futures actions, comment est-ce qu'on va les organiser, parce que là, par exemple, on avait prévenu les forces de l'ordre la veille. Du coup, ils étaient au courant, normalement, de ce qu'on allait faire. Ils savaient qu'on était non-violents. Ils ont normalement eu le temps de construire une façon de répondre à ça. Ce dont on a peur, c'est que effectivement, ils essayent de nous étouffer dans l'œuf, quoi. Mm. Donc avant qu'on ait le temps de se développer, l'idée c'est d'énerver bien comme il faut des militants pour que cette stratégie non violente elle soit plus effective. Mais du coup, on essaye justement de toujours avoir des réflexions après ce genre d'action, avoir des débriefings pour discuter de comment ça s'est passé, de comment ça aurait pu, comment on aurait pu réagir. Il y a des gens qui sont effectivement énervés. J'ai discuté avec un gars dont la réaction était absolument géniale. Il a commencé à s'énerver. Il a senti, il s'est cassé. Il s'est cassé, il a dit « Ok, je vais souffler un coup, je vais arrêter de bloquer, je vais arrêter d'être face aux policiers, je vais arrêter de regarder mes amis, les autres activistes qui sont en train de se faire asperger de gaz lacrymo, peu importe. » Et voilà, et donc je pense que effectivement, l'énervement et l'énervement monte en nous aussi. Hein. Mais il faut juste essayer de ne pas trop se décourager et trouver en fait des moyens de répondre à cette réponse aussi.
Moi, je m'interroge sur les raisons de cette réaction des forces de l'ordre. J'avoue que je ne pense pas avoir la réponse. Je me suis demandé si ce n'était pas aussi une forme d'inexpérience de leur part face à ce genre de mouvement. Avoir en face d'eux des gens qui font de la désobéissance civile non violente, Je me demande dans quelle mesure les forces de l'ordre et le commandement qui a quand même donné un ordre, c'est pas, on est bien d'accord, hein, nous, on ne blâme pas les forces de l'ordre qui n'ont fait qu'obéir à des ordres qui ont été donnés par un commandement. Donc, mais je me pose la question dans quelle mesure ils ne sont pas expérimentés pour faire face à un mouvement comme le nôtre. Et je pense qu'ils s'en sont rendus compte, paradoxalement, en faisant ça, ils nous renforcent. C'est-à-dire que on n'a pas du tout anticipé cette réaction. Honnêtement, à aucun moment dans la préparation de l'action, on pensait qu'on allait avoir aussi rapidement une répression aussi forte. On ne pensait pas que les gaz lacrymo allaient être lâchés à 20 cm du visage de certains activistes. On ne s'y attendait pas. Et ce qui est paradoxal, c'est que finalement, bah, ça a créé un sentiment d'empathie de la part du grand public. Ça a permis à notre mouvement d'être beaucoup plus connu. On a beaucoup de gens qui se sont rapprochés de nous suite à ces événements. Donc je pense que ils se rendent compte qu'en agissant de la sorte, moi j'aurais tendance à dire qu'ils nous renforcent en fait.
J'ai une question assez technique quelque part. Comment se, sans en divulguer évidemment trop, comment s'organisent les choses au sein d'Extinction Rebellion ? Parce que j'ai toujours une interrogation quand on est confronté à des mouvements qui sont sans leader, sans chef, qui sont organisés de manière très horizontale. Comment est-ce qu'on s'organise dans ces cas-là ? Comment est-ce qu'on structure ce qu'on se demande ? Comment est-ce qu'on structure ses actions ? Comment est-ce que ça fonctionne tout simplement ?
Alors, il y a différents, pas de niveau d'organisation, mais en gros, des différents types d'organisation qui travaillent un peu en parallèle. Donc, on s'organise à un niveau national sur une plateforme informatique, un forum, en fait. Et à l'échelle nationale, du coup, on a ce qu'on appelle des groupes thématiques. Qui sont un peu basés sur des prises de décision de gouvernance partagée. Donc en fait, on peut participer à maximum un individu, un membre peut participer à maximum deux groupes thématiques. Généralement, c'est un seul parce que ça prend déjà bien assez de temps. Un groupe thématique, ça peut être médias et messages, par exemple, si on s'occupe des relations avec les médias, la communication. Un autre exemple de groupe, c'est recherche et systémique. Donc c'est un groupe qui fait une espèce de veille scientifique, que ce soit en sciences sociales ou en sciences climatiques, environnementales, pour permettre justement à tous les membres d'avoir accès à l'information. Et en fait, à chaque fois qu'un membre d'XR a besoin de tel ou tel, on peut dire service ou telle information, par exemple, est-ce qu'on pourrait envoyer ce communiqué de presse pour cette action aux médias, bah voilà, c'est le groupe médias et messages qui va s'en occuper. Est-ce que vous pourriez me donner des chiffres sur l'érosion de la biodiversité en France ces dernières années? Bah, ce sera surtout recherche et systémique. Donc, à l'échelle nationale, c'est un groupe thématique. Et en parallèle, du coup, il y a une organisation plutôt locale. Pour l'instant, c'est régional. Et au fur et à mesure qu'il y a plus de monde qui afflue dans telle ou telle ville ou telle région, c'est plutôt municipal. L'idée, c'est quand même de pas toujours rester derrière son écran et derrière son forum, mais d'organiser des actions, de se réunir, de tisser des liens, de créer des groupes affinitaires à un niveau local. Donc, par exemple, en Île-de-France, maintenant, on se réunit de façon hebdomadaire pour discuter des actions, pour discuter de l'organisation du mouvement à l'échelle régionale, à l'échelle de l'Île-de-France. Et du coup, ce parallèle, ça permet, ça participe à nos deux principes qui sont de, on en a 10 au total, mais les deux en l'occurrence, c'est décentralisation et autonomie et horizontalité. Voilà, pour éviter les prises de pouvoir par des individus en particulier, les prises de décision qui seraient illégitimes.
Il y a quelque chose qui m'interroge moi toujours face au mouvement du type d'Extinction Rebellion, c'est d'essayer de déterminer, même si c'est sans doute extrêmement compliqué, et c'est peut-être qu'il n'y a pas de réponse à ça, si c'est des mouvements qui sont mus par l'espoir ou par le désespoir. C'est ça qui est un peu compliqué à comprendre. Mais peut-être que vous n'avez pas la réponse à cette question.
Enfin, moi, j'aurais répondu à ta question en disant un peu les deux à titre personnel. Je pense que c'est la gravité et l'effet systémique de la crise dans laquelle on est qui m'a fait désespérer, objectivement. Et j'ai deux enfants. La dernière a 3 semaines, hein, elle vient de naître. Clairement, quand j'ai commencé à, à regarder en face les rapports du GIEC, de l'IPBES et à lire certains livres et ouvrages scientifiques, je me suis rendu compte de la gravité de la crise dans laquelle on était. Donc oui, j'ai vécu, pour ceux qui connaissent, une sorte de courbe de deuil. C'est-à-dire que vraiment, au départ, j'étais dans le déni. C'est-à-dire que quand je lisais ça, je me disais, mais c'est pas possible. Si c'était vrai, on en parlerait dans tous les journaux, les gouvernements agiraient tout de suite, tout le monde arrêterait de bosser et se mettrait à résoudre cette problème. Donc j'étais dans le déni, puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était factuellement le cas. Et là, énorme, une sorte de dépression. Je me suis senti extrêmement triste. Et en tant que père, et puis même pas, ça va au-delà, hein, pas besoin d'avoir des enfants pour vivre ça, mais quand on se dit qu'on est en train de tuer la nature, quand on se dit que c'est les pays du Sud qui vont subir, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on est quand même 10% de la population, donc les plus aisés, qui sont à l'origine de 50% des émissions des gaz à effet de serre. Et donc finalement, c'est ces gens-là qui vont pâtir le moins de la crise, qui vont mettre ces gens... Enfin, on est quand même dans une situation qui est moralement intenable. Enfin, moi, je ne comprends pas comment on peut rester impassible. Donc finalement, et je pense que tu le sens là, la désespoir est devenu de la colère. Et cette colère est devenue de l'action. Et finalement, c'est le fait d'agir qui m'a poussé à espérer. Je ne sais pas si on peut endiguer totalement ce qui est en train de se passer, mais en effet, limiter la chute. Le rapport du GIEC dit chaque dixième de degré compte. C'est-à-dire que, par exemple, entre 1,5 degré et 2 degrés, on parle potentiellement de millions de migrants supplémentaires, on parle de zones qui vont être immergées, on parle de 99% du corail qui disparaît à 2 degrés. Donc moi, je pense que si on peut, ne serait-ce que par nos actions, endiguer le phénomène et se préparer à amortir la chute qui peut-être s'annonce, j'ai envie de le faire. Donc c'est un mélange de désespoir et d'espoir.
Un dosage subtil, donc, d'espoir et de désespoir. Un équilibre aussi, sans doute, à maintenir pour tenir à distance les tentations les plus radicales. Merci à Flora et à Jay pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.